On commence donc avec un invité téléphonique, c'est Pierre Péguin, qui fait partie du collectif Halte au nucléaire Gare, et il va nous présenter une journée d'information que ce collectif organise samedi prochain à Alès et à Nîmes. Voilà, le temps de le joindre, je vous laisse avec une chanson, ça s'appelle L'Atome, et c'est Gérard Gély qui l'a créée.
À l'époque de Monsieur Perrichon, les mineurs pour chauffer nos maisons avaler des tonnes de poussière. Maintenant on a le nucléaire. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop beau pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Tout est net chez Madame Durand, tout est propre, tout est chaud, tout est blanc. Peu d'espoir qu'un seul bouton s'y perde, c'est bien dommage qu'on s'y emmerde. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Quand l'atome batifole gaiement dans les bois, dans les prés, dans les champs, renardeaux, désertez vos tanières, rossignolez, fuyez vos clairières. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Rendez-moi ma chaumière enfumée, mes sabots et ma cheminée, mon couteau, ma vieille pipe en terre, et mettez-vous l'atome derrière. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires étaient les deux mamelles du nucléaire.
Et voilà, vous êtes donc toujours sur Radio Bartas, sur le 107. Et maintenant, au bout du fil avec nous, il y a Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ça marche, c'est parfait. Donc Pierre, on t'appelle pour que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui va se passer à Nîmes et à Alès samedi 17 octobre. Il est question de nucléaire évidemment, puisque c'est le collectif Halte au nucléaire Gare qui organise cette journée d'information.
Voilà.
Alors comment ça va se dérouler, et puis peut-être commencer par une petite présentation de ce collectif.
Alors on voulait le faire en deux temps. Mmh. Un premier temps le matin à Alès et l'après-midi à Nîmes, de façon à permettre à des gens d'Alès qui ne seraient pas allés à Nîmes de venir assister au moins à un morceau. Pour nous, tout est lié. Donc le matin, ça commencera d'abord, c'est moi qui ferai une introduction sur d'une part les projets locaux, c'est-à-dire le réacteur Astrid de quatrième génération au plutonium refroidi au sodium liquide qui est prévu à Marcoule et contre lequel il faut absolument qu'on arrive à mobiliser les citoyens, les politiques et les associatifs pour s'y opposer, parce que c'est la relance de la filière plutonium derrière Phénix et Super Phénix.
Alors ça, c'est prévu pour quand?
Alors en ce moment, les études sont en cours et l'État pourrait donner son accord à la fin de cette année 2015.
D'accord.
Et ensuite, il y aura des études plus fines pour démarrer le chantier 2 ou 3 ans plus tard. Nous, on espère que ça ne va pas marcher.
Bien sûr.
Et voilà, donc on souhaite sensibiliser à ça. Et puis également, parler un petit peu de ITER, qui est une construction qui coûte excessivement cher et dont on est convaincu qu'elle ne marchera pas, et tant mieux, parce que c'est trop dangereux également.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ITER?
Alors, ITER, voilà, le centre d'études, le centre d'énergie atomique, le CEA, depuis 60 ans, a 2 fers au feu, qu'il espère arriver à mener à bien, qui seraient des filières franco-françaises, ou en tout cas qui échapperaient à Westinghouse, comme tous les réacteurs à eau, que ce soit les PWR ou les EPR. Alors, l'une de ces filières, c'est ce qu'on appelle la fusion. La fusion, c'est on prend 2 atomes très légers, c'est de l'hydrogène et de l'hydrogène lourd radioactif, deutérium, tritium, et on les oblige dans des conditions extraordinaires qui sont celles du Soleil, à l'intérieur du Soleil, c'est ce qui se passe, à fusionner. Et quand elles fusionnent, elles donnent un atome qui contient moins d'énergie dans son noyau que la somme des deux qui sont au début. Et donc, le but, c'est de récupérer cette énergie pour avoir de la chaleur avec laquelle on fera bouillir de l'eau pour faire de l'électricité. Alors, nous, on dit que les conditions sont tellement critiques que ça ne marchera jamais d'un point de vue industriel, et tant mieux parce que le tritium est un élément très très dangereux au point de vue contamination radioactive. Mmh. Finalement, on cherche à faire le soleil en usine alors qu'on n'est pas capable de le récupérer d'une façon importante sur nos surfaces. Et alors, le deuxième fer au feu du CEA, c'est les réacteurs à neutrons rapides comme Malville, Phoenix, Super Phoenix, et où il s'agit cette fois de la fission, comme la fission de l'uranium dans les réacteurs à eau, mais en utilisant cette fois le plutonium, et le plutonium qu'on extrait des combustibles usés des réacteurs qui fonctionnent actuellement, et qui n'existe pratiquement pas dans la nature, et heureusement parce que c'est la pire saloperie que l'humain ait jamais élaborée au point de vue radiotoxicité, et c'est un produit très très dangereux et qui met très longtemps à se désintégrer. C'est-à-dire qu'on en a pour 200 000 ans avant de s'en débarrasser. Mmh. C'est la pire chose qu'on ait. Donc, pour le CEA, ce sont des filières qui sont crédibles et qui assurent un avenir radieux, nous on dit radieux, à l'humanité. Mais on n'en est pas là, jusqu'à présent, ni l'une ni l'autre n'ont marché convenablement.
Mais il s'agit de se mobiliser.
Il y aura cette introduction le samedi matin à 10h30, et à 11h, on aura le docteur Fauconnier qui arrive de Corse, et qui a beaucoup travaillé sur les retombées de Tchernobyl, puisque le but de la journée, c'est de montrer la dangerosité du nucléaire et le fait que c'est mortifère. Mmh. Et donc ça, c'est la matinée, et ensuite, à 14h, à Nîmes, et il faut que je trouve le lieu que j'ai oublié par cœur.
Alors attendez, c'est à la salle des cheminots.
À la salle des cheminots, ben, très
15
bien.
15 rue Benoît Malon.
Voilà, parfait. je ne l'ai pas sous les yeux.
À Alès, on avait, je ne sais pas si on l'avait dit, à Alès, c'est à la Bourse du Travail.
Et à Alès, c'est à la Bourse du Travail.
Facilement trouvable.
Voilà. Mm-hmm. Donc à la salle des cheminots, à Nîmes, à 14h, c'est Abraham Béard, qui est un médecin, qui est responsable d'une association de médecins opposés au nucléaire, et qui font un très bon travail, et qui va parler justement de l'effet des faibles doses. Parce que les nucléocrates disent toujours qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas de risque, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de seuil minimum. Et au contraire, la contamination par les faibles doses est très radiotoxique et induit des maladies, des malformations congénitales ou des naissances monstrueuses. Et donc c'est de ça dont il sera question avec Abraham Béard. Et à 14h15, c'est Roland Desbordes de la CRIRAD qui interviendra. Et il interviendra à propos des normes que l'Europe cherche à faire passer en cas de catastrophe nucléaire en Europe. Et l'Europe cherche, enfin la Commission, à imposer des normes qui relèvent beaucoup le seuil en dessous duquel on soumet les populations.
D'accord. Ça, c'est un travail sur lequel ils sont en ce moment.
Oui, oui. D'accord, et c'est très important parce que quand on dit, par exemple, que dans la population, il faut qu'elle soit maintenue en dessous d'une quantité, je ne vais pas rentrer dans l'unité, de 1. C'est 1 millisievert bon, par an. 1, on va dire 1. Eh bien, c'est qu'on admet qu'il y a sur 100 000 personnes, 5 qui seront victimes d'un cancer, d'une leucémie, d'une maladie liée au nucléaire. Mmh. Ça veut dire qu'au niveau de la France, ça veut dire quand même près de 3 000 personnes. Quand on multiplie ce seuil par 10 ou par 20, par exemple, aussi bien en Biélorussie qu'au Japon autour de Fukushima, on a relevé ce seuil à 20. Eh bien, ça veut dire qu'on multiplie par 20 le nombre de victimes qu'on tolère. Alors, donc on voit bien que c'est grave quand même.
Bien sûr. L'idée, c'est aussi de montrer par cette journée que même si on n'habite pas Fukushima ou si on n'habite pas du côté de Tchernobyl, le nucléaire est un danger pour notre santé.
Oui. Alors, il faut dire que suite aux 2000 essais de bombes atomiques, toute la planète, tous les organismes vivants de la planète sont contaminés déjà.
2000 essais.
Oui.
On ne le sait pas assez, bombes, c'est pour ça que je pense qu'il faut insister sur ça.
Les États-Unis, la Chine, l'URSS, la France, l'Angleterre, et dont une partie aérien, qui ont diffusé partout, donc des radioéléments. Et ces radioéléments sont métabolisés dans la vie, c'est-à-dire qu'ils rentrent, par exemple, le strontium-90 se comporte chimiquement comme le calcium. Donc une plante, un micro-organisme va l'utiliser comme du calcium, les herbivores le consomment, les carnivores ou les omnivores comme nous le consommons aussi, et donc on se retrouve dans notre corps avec du strontium radioactif à la place de certains atomes de carbone. Et quand, si cet atome se désintègre pendant qu'il séjourne dans notre corps, et ben, autour de lui, il fait des dégâts. Mmh. Également, il y a de gros effets du césium radioactif. En Biélorussie, si beaucoup d'enfants sont malades actuellement, c'est beaucoup à cause du césium. Qui, lui, ce césium radioactif se comporte comme le potassium. Donc il rentre dans des organes essentiels de notre corps. Et ce sont les enfants, bien sûr, qui y sont le plus sensibles. C'est quand même important de savoir... vous me dites si je suis trop long, hein.
Non, allez-y.
Qu'en Biélorussie, il y a à peu près 3 millions de personnes qui vivent en zone contaminée. Alors l'État biélorusse, qui est une dictature, cherche à le faire oublier. Mais il n'empêche que dans cette zone contaminée, les enfants, pour 4/5 d'entre eux, 4 enfants sur 5, ont des problèmes de santé. Là où chez nous, on a grosso modo un enfant sur 5 qui a besoin de servir... qui a une pathologie qui exige quelque chose. 4 enfants sur 5. Et quand on voit des documentaires, on s'aperçoit que c'est des enfants qui sont amorphes, qui ne bougent pas beaucoup. Là où nous, on n'arrive pas à tenir les nôtres, là-bas, ils n'ont pas de vitalité. Donc on voit bien les effets sur les enfants à long terme, parce que Tchernobyl, c'est quand même 30 ans dans un an. Et ces éléments radioactifs, ils restent longtemps en fonction de leur période. Ils restent dans la nature, ils s'enfoncent dans le sol, mais les racines des arbres les recyclent, ils se retrouvent dans les feuilles, donc à la surface du sol, ça se retrouve dans la nourriture, ça se retrouve dans le lait en particulier, beaucoup dans le lait, et n'importe la viande, etc. Et ce sont donc des contaminants qui, lorsqu'ils se désintègrent, font des dégâts dans les organismes. Et il y a une grande opposition entre... ceux qui cherchent à développer à tout prix le nucléaire, qu'on appelle d'une façon péjorative les nucléocrates, et nous, eux ne tiennent compte que de l'irradiation directe. Ils s'appuient que sur les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Alors l'irradiation directe, elle vient de l'extérieur, elle traverse la peau, et elle vient toucher, mais ils ne veulent pas tenir compte dans les calculs de tous ces éléments qui contaminent toute la vie, et donc qu'on retrouve dans nos organismes et qui peuvent faire des dégâts. Vous vous rendez compte que j'ai été apiculteur professionnel pendant 25 ans. Quand j'ai fait analyser le pollen en Cévennes que j'ai récolté de mes abeilles au moment du nuage de Tchernobyl, eh ben, il était contaminé. Ça montre que partout, même dans des zones qu'on pense sauvages comme les nôtres, nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces contaminations. Et donc, on veut chercher à faire passer que le nucléaire n'est pas acceptable, même loin des catastrophes comme nous. Sauf que maintenant, la France en particulier est menacée d'une catastrophe, parce que nos réacteurs vieillissent, il y a des fissures dans les cuves, et on se demande si le prochain Fukushima sera... en France ou près de chez nous en Belgique. Et à ce moment-là, tout est prêt pour nous imposer de vivre dans un univers encore plus contaminé.
Où on acceptera donc, où il y aura des normes donc, où il sera toléré.
Oui, l'armée aura à gérer les flux de population pour limiter les mouvements de panique. Dès maintenant, on sait que les normes dans l'alimentation seront multipliées par 20. Et voilà. Qu'on cherchera à nous convaincre, comme ça se passe au Japon et comme ça se passe en Biélorussie. On cherchera à dire qu'on peut vivre en zone contaminée, moyennant quelques précautions. Et il y a un auteur français qui vit au Japon et qui dit « Eh bien maintenant, on vit une demi-vie, un peu comme la période, c'est la demi-vie d'un élément radioactif. » Parce que toujours, il faut se demander est-ce que ce qu'on achète, ce qu'on consomme, est-ce que c'est contaminé ? C'est difficile à mesurer parce qu'il faudrait des appareils excessivement précis et très chers pour le mesurer, que personne n'a sous la main à part des laboratoires. Et donc, on nous prépare à la catastrophe. Alors nous, on dit, et moi je dis, quand un immeuble est fissuré, on ne demande pas comment on va reloger les gens, on leur dit, fuyez vite, il risque de s'effondrer. Eh bien, le nucléaire est fissuré. Tout le monde admet que maintenant, y compris le CEA et l'autorité de sûreté nucléaire, qu'on risque une catastrophe, eh bien, je dis, et d'autres le disent aussi, il faut arrêter le nucléaire. Il ne s'agit plus de vouloir en sortir en 30 ans, comme on le disait encore il y a une dizaine d'années. Ça a trop duré, il faut l'arrêter.
Ce qui est intéressant, c'est aussi que, au-delà de la catastrophe, hein, même si elle est imminente, on pourrait dire, ce qui est intéressant, c'est aussi ce travail sur le nucléaire qui est nocif, même dans des conditions, entre guillemets, optimales d'utilisation industrielle telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Avec justement cette réflexion sur l'effet des faibles doses.
Tout à fait, parce que toutes les usines nucléaires, les réacteurs et les usines comme la Hague, Marcoule, Tricastin ou Pierrelatte, toutes les usines relâchent dans l'eau et dans l'air des radioéléments. Elles sont autorisées à le faire parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Il y a des éléments comme le tritium qu'on ne sait pas arrêter. Et d'autres, on sait le faire, mais ça serait un coût économique tellement grand que ça foutrait en l'air toute l'industrie nucléaire. Donc légalement, tous les réacteurs rejettent. Et sous le vent, les populations récupèrent ça, ça tombe. Par exemple, la CRIRAD a mesuré qu'il y avait du plutonium dans les limons du Rhône. On peut y trouver en dessous de Marcoule et en dessous des réacteurs qui peuplent la vallée du Rhône un certain nombre d'éléments, pas seulement d'ailleurs le plutonium, mais le césium, le strontium, le tritium, etc. Et en France, évidemment, on ne veut pas le faire pour protéger notre industrie. Mais en Angleterre et aux États-Unis, en Allemagne, où des études épidémiologiques ont été faites, on voit bien qu'autour des centres nucléaires, il y a plus de maladies, plus de cancers, et en particulier plus de leucémie d'enfants, que dans une population qui est éloignée de ces centres.
Et là, on ne parle pas des travailleurs du nucléaire.
Et là, on ne parle pas des travailleurs du nucléaire. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une centrale nucléaire parmi les premières qui devait faire le plutonium et en particulier qui devait faire le tritium. Et cette personne me disait que sur ceux qui travaillaient sur le tritium, dans la filière de ce réacteur, eh ben, il s'est aperçu qu'arrivé à 60 ans, la moitié était mort. Mais évidemment, comme ça porte que sur quelques dizaines de personnes et que les autorités ne veulent surtout pas en faire une étude, statistiquement, c'est pas assez nombreux pour le dire, mais il n'empêche que c'est vrai, ça existe.
Et... Bien sûr. Alors je le dis pour nos auditeurs de Radio Barthès, jeudi à 18h, à cette même heure dans le cadre de Ailleurs sur les ondes, on vous diffusera une émission justement qui est consacrée aux travailleurs du nucléaire avec une interview d'Annie Thébaumoni, qui est chercheuse à l'INSERM, spécialisée dans la santé au travail et qui a fait de nombreuses études justement sur la santé des travailleurs du nucléaire, et c'est assez effarant.
Je comprends. Alors c'est jeudi.
Ça sera jeudi à 18h, oui. Voilà. Bon, donc bien. En tout cas, pour en savoir plus, et merci à vous d'organiser cette journée d'information, parce qu'on en manque cruellement sur ce genre de sujet.
Voilà, samedi 17.
Samedi 17, à partir de 10h30 à la Bourse du Travail d'Alès. Ça, c'est quand même pas très loin de chez nous. Et puis, dans l'après-midi, à Nîmes, à la Salle des Cheminots, avec une intervention à 14h de Abraham Béard sur les faibles doses, et à 16h15 de Roland Desbordes de la CRIRAD sur ces modifications des normes européennes en cas de catastrophe nucléaire. Et Pierre, j'espère qu'on pourra en reparler de ces normes européennes, parce que vu que vous suivez le dossier, on aimerait bien en avoir des nouvelles par ici aussi.
D'accord.
Merci beaucoup en tout cas.
Et merci de nous avoir donné la parole.
À notre appel. Et on reste en contact pour la suite.
D'accord, merci beaucoup.
On se quitte avec une chanson qui est la chanson du nuage. C'est une chanson qui a été créée en 2011 pour donc les 25 ans de Tchernobyl par Irina et Igor, et qu'ils ont dédicacée, qu'ils ont faite en hommage à Valérie Koudemtchouk, qui était un pompier mort en intervention dans le réacteur du bloc 4 en avril 1986.
J'aurais tant aimé voir la France, la tour Eiffel et Sarkozy, la très très grande et les petits. J'ai survolé dans mon errance la grande Europe et ses confins, de Vladivostok à Valence. J'ai irradié tous les jardins, j'ai irradié tous les jardins. Je suis un nuage clandestin, sans papier, je voyage, c'est bien. Je suis un peu radioactif, officiellement inoffensif. J'ai vu la Suisse et les alpages, j'ai goûté les spécialités, une indigestion de fromage m'a fait gerber dessus les prés. J'ai contaminé tous les fruits, les abricots à Martigny et puis les vignes à Dardanie. Mais pas moyen d'aller en France, non.
Ah non,
on ne m'a pas laissé entrer. Je suis volage et je danse, mais surtout je suis sans papier, mais surtout je suis sans papier. Je suis un nuage clandestin, sans papier, je voyage, c'est bien. Je suis un peu radioactif, officiellement inoffensif. La 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 la, la France.
La France.
La 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 la.
Anne Basse.
La 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 France.
Tricastin.
La 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 la. La 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 France. La 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 la.
Patrick Sébastien.
La 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 France.
Brigitte Bardot.
La 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 la.